France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT et sur les applications France Info. Vous connaissez le principe, une heure de débat en direct, quatre sujets d'actualité, quatre invités. Et ce soir, on va revenir sur ces frappes coordonnées contre le régime syrien, des frappes menées par Paris, Washington et Londres. Hier, fallait-il vraiment envoyer ces missiles et surtout ce message à Bachar al-Assad et à ses alliés? C'est l'une des autres images qui nous a été donnée à voir cette semaine. Cette armée de gendarmes mobiles qui déferle sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Ordre républicain rétabli, nous dit le gouvernement. Coup de menton et provocation contre-productive, répondent les zadistes. On essaiera de trancher. La grève perlée à la SNCF qui revient en troisième semaine dès mardi soir. Mais le gouvernement, jusque-là inflexible, semble mettre un peu d'eau dans sa réforme du train, notamment en ouvrant la porte aux propositions de la CFDT. Et puis, en un an, on est passé du président à la pensée trop complexe pour être interviewé à la télé, au président qui donne et qui accorde deux entretiens en quatre jours. D'où vient ce subit appétit pour les écrans d'Emmanuel Macron? Et pour nous éclairer sur tous ces sujets, les informés ce soir s'appellent Maud Guillaumin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et documentariste. Arnaud Benedetti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en histoire de la communication à l'université Paris 4, la Sorbonne, et auteur du livre Le coup de com' permanent. Nous sommes aussi avec Hervé Gauthier. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du service économie et sociale de France Télévisions, et François Ernenwein. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du journal La Croix. Les informés, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 21h. Fallait-il frapper ces cibles militaires en Syrie? La question a été posée dès hier, plus ou moins brillamment, après l'envoi par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne d'une centaine de missiles pour réduire officiellement la capacité du régime syrien de Bachar al-Assad à produire des armes chimiques. Le dictateur syrien a franchi la ligne rouge, il en paye les conséquences. Voilà ce qu'on explique notamment à l'Élysée. Attention, nous avons aussi nos lignes rouges, ont répondu aujourd'hui les Russes, principaux alliés du régime syrien. Rien, ces frappes étaient-elles légitimes, François Ernenwein?
Ben je pense que oui. Quand on fixe une ligne rouge, si la personne à qui s'adresse la limite ne respecte pas la règle, il faut intervenir. Et là, je pense qu'il y avait suffisamment d'indices concordants pour que les alliés occidentaux, États-Unis, France et Grande-Bretagne, frappent.
Cette question des preuves, on l'a aussi beaucoup entendu hier, Maud Guillaumin.
Oui, alors c'est vrai que Emmanuel Macron a vraiment cité le fait qu'il avait des preuves de toutes parts. Alors c'est vrai que les preuves, souvent on les critique, mais là, les renseignements avaient en effet, par différents biais, beaucoup de preuves concordantes. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a pu se mouiller sur cette question. Et un autre élément, on l'accuse aussi d'avoir suivi Trump, ce qui n'est pas vrai. Il est vrai qu'avant son élection, Trump avait déjà ciblé la Syrie.
En avril 2017.
Exactement. Mais dès le début, Emmanuel Macron avait dit que cette ligne rouge des armes chimiques, ça, il ne l'accepterait pas. Il l'a dit plusieurs fois. Et il ne veut pas se laisser faire par rapport, justement, au discours de Vladimir Poutine. Et c'est aussi une manière de dire que, voilà, cette ligne rouge, de toute manière, au niveau international, pas seulement en Syrie, mais à l'utilisation des armes chimiques de manière générale, eh bien, c'était la ligne rouge à ne pas franchir.
Gauthier, votre point de vue, vous, sur ces frappes en Syrie?
Oui, bon, on pourrait presque se demander pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait avant. D'ailleurs, la question a été posée par
certains. Ça a pris quand même quasiment
certains.
Une semaine.
Oui, non, mais c'est surtout qu'on sait déjà qu'il y avait eu quand même des attaques chimiques, notamment, c'était en 2013. Mm-hmm. En 2013, il y avait eu 1300 morts. Enfin, donc voilà, on ne se réveille pas d'un seul coup en découvrant ou en feignant de découvrir que Bachar el-Assad utilise des armes chimiques contre son propre peuple. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces frappes, c'est que finalement, d'un point de vue militaire, c'est pas très important. Enfin, je veux dire, tout le monde a été prévenu à l'avance. Les Syriens savaient que ça allait frapper. Les Russes ont été prévenus. Il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu quelques dégâts. Alors, on a presque envie de dire que d'un point de vue strictement militaire, c'était plus une tape sur le museau de Bachar el-Assad en lui disant maintenant ça suffit comme ça. En revanche, dans la symbolique des choses, là, c'est nettement plus intéressant. C'est qu'il y a eu un repositionnement, notamment de la France, aux côtés de Trump, Maud Guillaumin vient de le dire, mais il y a eu un repositionnement vis-à-vis des Russes, à qui on a dit votre stratégie de blocage systématique du Conseil de sécurité, ça ne marche plus et nous aussi on peut s'autonomiser et prendre nos propres décisions. Et puis également un signal fort envoyé, on va dire, à toutes les tierces parties, si j'ose dire, que ce soit l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël ou la Turquie.
La Turquie, oui.
Arnaud Benedetti, vous qui êtes spécialiste de la communication, en termes de signal, qu'est-ce que ça veut dire ces frappes de la part de
Je rejoins ce que vient de dire Hervé Gauthier. Je pense que c'est sur le plan des principes et sur le plan de la communication politique que l'exercice était véritablement fondé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous annoncez un certain nombre d'objectifs politiques, que vous tenez un discours, que vous dites qu'il y a une ligne rouge qui ne doit pas être franchie, vous vous mettez de toute façon dans la position à un moment donné d'être obligé d'intervenir. Donc là-dessus, il y a une cohérence politique qui est d'ailleurs une cohérence politique que l'ensemble des intervenants dans cet exercice ont respecté, de M. Trump à sa façon jusqu'à Emmanuel Macron. Ça, c'est une réalité. Ensuite, après, il faut se poser la question de savoir si au regard de la mémoire récente que l'on a des interventions des Occidentaux sur un certain nombre de terrains extrêmement compliqués, on le sait, il faut toujours aller avec des idées assez complexes pour comprendre la réalité complexe de l'Orient, est-ce que ces frappes permettent d'une certaine manière de commencer à résoudre les difficultés que l'on rencontre en Syrie? C'est une question qui reste aujourd'hui complètement ouverte. On sait très bien que quand même les interventions jusqu'à présent des Occidentaux, qu'il s'agisse sur le terrain irakien ou sur le terrain libyen, ont renforcé plus le chaos qu'elles n'ont résolu le problème. Et ça, les opinions publiques le savent. Et c'est, je crois, véritablement le défi auquel seront confrontés les dirigeants par rapport à leur opinion publique vis-à-vis de ces interventions.
Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas du tout la même position qu'en 2013, quand Obama avait hésité à y aller. Là, la question, c'était vraiment de renverser le régime de Bachar al-Assad. Là, il n'est pas du tout question de renverser Bachar. La question
ça a été
politique.
Très clairement dit par Jean-Yves Le Drian, c'est une des premières choses qu'il a dites hier, effectivement.
Voilà.
Il s'est empressé de dire, attention, il ne s'agit
pas... Il n'y aurait pas d'autre frappe, d'ailleurs.
Exactement. Non. Il ne s'agit pas de faire tomber Bachar al-Assad.
Et à présent, le Conseil de l'ONU doit reprendre la main, c'est en tout cas ce que dit la France, en disant, voilà, nous, on a attaqué, on a voulu, en effet, montrer quelle était cette ligne rouge. Maintenant, en effet, l'ONU doit essayer de débloquer le système et reprendre la main.
On continue de parler de ces frappes en Syrie dans un court instant. D'abord, à 20h10, l'essentiel de l'info de ce dimanche soir avec Marc Potvin.
Vladimir Poutine met en garde les Occidentaux. De nouvelles frappes en Syrie provoqueraient le chaos dans les relations internationales. Le président russe a eu son homologue iranien au téléphone aujourd'hui. Les deux dirigeants estiment que les frappes occidentales d'hier endommagent sérieusement les perspectives d'un règlement politique en Syrie. L'une des principales avenues de Barcelone, noire de monde cet après-midi. Plus de 300 000 personnes ont manifesté pour la libération de 9 figures indépendantistes catalanes. Elles sont notamment accusées de rébellion. Parmi les slogans dans le cortège, « Liberté pour les prisonniers politiques ». Toujours aucune trace du petit Léo, plus de 24 heures après sa disparition. Les recherches se concentraient autour d'une rivière proche de sa maison, à Romilly-sur-Andelle, près de Rouen. Désormais, elles sont étendues jusque dans la Seine. La thèse de l'accident reste privilégiée. Après 3 épisodes de grève à la SNCF, les cheminots sont toujours aussi déterminés à lutter contre la réforme du rail. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le secrétaire général de la CGT. Pour Philippe Martinez, les grévistes mènent un combat juste, d'utilité publique et d'intérêt général. Et puis il le disait lui-même, le cinéma était sa vie. Le réalisateur italien Vittorio Taviani est décédé. Il avait 88 ans. Avec son frère Paolo, il a réalisé plus d'une vingtaine de films, dont Padre Padrone, Palme d'Or à Cannes en 77.
France Info.
20h, 21h, les informés, Aurélien Accard.
Les informés de France Info ce soir, Maud Guillaumin, Arnaud Benedetti, Hervé Gauthier et François Ehrenwein dans le studio de France Info. On parlait de ces frappes en Syrie, tout le monde avait l'air plus ou moins d'accord sur le fait qu'elles étaient, si ce n'est légales, au moins légitimes, ces frappes. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup réagir hier dans la classe politique française. Plusieurs responsables se sont montrés vraiment très critiques avec cette décision de mener des frappes. Je vous propose d'écouter dans l'ordre le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, et puis Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise.
Je reste toujours très circonspect sur le fait que la France aille intervenir en dehors d'un mandat précis de l'ONU. Ça peut avoir des conséquences sur la voix de la France, sur le poids qu'elle représente sur la scène internationale.
Mon désaccord complet avec cette opération, le risque énorme qui a été pris, Je rappelle que le risque d'une guerre généralisée, incluant les Russes, c'est pas un petit exercice militaire dans un coin de la planète. C'est quelque chose d'extraordinairement grave. Et il n'y a aucun intérêt à se mettre dans cette situation avec la Russie.
Jean-Luc Mélenchon et puis Christian Jacob, juste avant, donc très critique. François Hernenwein, on a entendu pas de mandat de l'ONU et attention au risque de généralisation du conflit, en fait, avec les Russes.
Pardon, ces remarques sont justes. Il est pertinent de questionner le respect du droit ou pas quand se produit une intervention militaire. Je pense que c'est bien de poser ces questions, mais là, dans le passage-là, n'est pas évoquée la réserve aussi de Jean-Luc Mélenchon sur la réalité de l'usage des armes chimiques, qui est beaucoup plus problématique dans le débat. On l'a dit tout à l'heure, il y a suffisamment d'indices pour justifier.
C'est vrai que c'est répété avec virulence par plusieurs membres de partis politiques, différents d'ailleurs, qui répètent, en fait, on n'a pas les preuves, et surtout qui reviennent sur cette idée de 2004 où Grande-Bretagne avait suivi l'Amérique de George Bush dans la guerre contre l'Irak pour des armes de destruction massive qui n'existaient pas.
C'est la comparaison
qui est faite plusieurs fois.
Ou, enfin, là où la comparaison ne tient pas vraiment, c'est qu'en l'occurrence, là, c'était les États-Unis. Une certaine forme des États-Unis, hein, d'ailleurs, c'était l'époque de Bush, où on se souvient là de la fiole qu'ils avaient agitée au Conseil de sécurité de l'ONU, et effectivement les Britanniques avaient suivi. Là, la France dit détenir des preuves, donc voilà, et les avoir elle-même transmises d'ailleurs justement à ses alliés. Donc là, c'est quand même pas tout à fait la même configuration, je trouve.
Quand un conflit qui pourrait se généraliser, on voit bien que les Russes ont été bien prévenus, que en effet le risque, c'était de toucher des soldats russes. Alors ça, vraiment, ça a été bien cadré. Les Russes, là, ils sont dans une situation vraiment compliquée par rapport aussi à l'Iran, vous le disiez, par rapport à la Turquie. Et donc, aujourd'hui, c'est pas avec des frappes très ciblées sur ce genre c'est pas ce genre d'attaque qui peut vraiment déclencher quelque chose. C'est juste montrer le rapport de force, en montrant que si la Russie s'impose en effet en Syrie de manière militaire, politiquement parlant, au moment où va y avoir le vrai changement, elle aura peut-être à discuter avec d'autres gens au niveau diplomatique.
Non, mais on voit bien qu'on est dans un exercice, encore une fois, qui est très symbolique. Les frappes ont pour objectif de tout simplement dire à Bachar al-Assad, maintenant il y a une ligne rouge, si vous la franchissez, il ne faut pas, je veux dire...
Ça, on est tous d'accord là-dessus.
Nous laisserons plus, je veux dire, cette ligne rouge franchie. Ceci dit, quand même, se pose la question de savoir si ces frappes, je veux dire, ont un véritable impact. La difficulté, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les Russes sont sur le terrain, que c'est eux qui, quand même, ont particulièrement aidé les Syriens à contenir l'avancée de Daesh. Et donc, ça, c'est cette réalité politique. Et on voit bien que les Occidentaux essayent, à travers ces frappes aussi, de reprendre quand même la main et de reprendre un positionnement sur ce théâtre dont ils ont été quand même relativement exclus ces dernières années.
Mais il ne faut pas parler des Occidentaux comme un tout unifié.
C'est vrai.
En fait, on voit dès maintenant de profondes divergences entre la stratégie française, la stratégie américaine et la stratégie britannique. Pour des raisons différentes, ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne n'ont particulièrement envie de dialoguer avec la Russie. Le dialogue avec la Russie, c'est la carte jouée par la France. Mmh. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise. En tous les cas, c'est une tentative intéressante pour faire avancer les négociations qui sont bloquées depuis des mois.
La visite de Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg n'est pas remise en cause.
Mais ça, pour l'instant. Une question relativement secondaire, parce qu'on verra dans les développements qui viennent si le président de la République française aura intérêt à aller à Saint-Pétersbourg. Il tente quelque chose là, c'est d'entamer un dialogue avec les Russes. Alors on va voir ce que les Russes vont faire. Pour l'instant, ils sont en position de force sur le terrain. Est-ce qu'ils ont intérêt à commencer le dialogue? Je pense que, au moins pour une raison, Assad est un allié encombrant pour les Russes. Les Russes vont devoir se poser la question de comment sortir du guépier syrien, même s'ils ont accru leur influence dans la région.
En parlant d'alliés qui peuvent être encombrants, je voudrais vous entendre rapidement sur l'aspect de finalement être quand même un peu dans la roue de Donald Trump. Est-ce que ça peut pas être un peu risqué à un moment?
Mais c'est pas la roue, là.
Oui, c'est l'avion, l'aile. Avec autre chose.
Oui, je pense que c'est peut-être l'une des critiques qu'on peut formuler, c'est le risque de se mettre dans la roue de quelqu'un qui, au moins sur la forme, peut paraître souvent assez imprévisible. Il n'est pas tant que ça, finalement. Il se donne des airs comme ça.
Les messages de la semaine dernière sur Twitter, notamment, destinés à la Russie, c'était quand même...
Voilà, ça c'est un risque.
Et celui d'avant sur la Russie, c'était quand même...
L'autre critique, c'est qu'on peut aussi, tout au plus, lui reprocher quand même d'avoir lui-même mis un coup de canif dans son discours sur le multilatéralisme qu'il avait fait il n'y a pas très longtemps. Après, je pense que, pour revenir sur ce que disait Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il y a une dramatisation à parler d'un risque de conflit généralisé. Je pense qu'on a mis surtout un petit coup de baïonnette dans le creux des reins des négociateurs pour que la politique puisse le reprendre le dessus. Mais ce qui va être intéressant, et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est l'impact que ça va avoir sur l'opinion française. Là, je suis assez curieux de savoir comment est-ce que les Français vont réagir. On a entendu les politiques hier et aujourd'hui, et ça va être intéressant de voir comment les Français vont réagir au positionnement de la France dans ce conflit.
Ben, c'est le pari que fait notamment Jean-Luc Mélenchon, c'est le pari que fait le Front National, c'est le pari que font un certain nombre de Républicains, qu'il n'y a pas de consensus de l'opinion publique sur cette intervention, d'autant plus qu'on se trouve en plus dans une situation qui, sur le plan national, peut-être et éventuellement faire penser à un certain nombre de nos concitoyens qu'il vaut mieux traiter les problèmes domestiques que les problèmes internationaux. Donc on voit bien que là, il y a une fenêtre de tir pour un certain nombre de politiques pour décliner un discours, disons, d'opposition à cette intervention.
Et on a l'exemple du fait que l'Allemagne d'Angela Merkel a décidé de ne pas intervenir sur cette question. Juste pour revenir par rapport à la position derrière Trump, Trump, lui, est quand même embourbé dans ses problèmes directs avec Moscou, donc il aura beaucoup de mal.
Est-ce que c'est pas un peu le point commun entre les trois, finalement?
Non, parce que justement, il y a l'affaire Skripal par rapport à l'Angleterre, et c'est là où Macron a une carte à jouer. C'est là où vraiment le rapport de force que lui impose et peut lui permettre, dans ses tirs, peut permettre à la France de sortir son épingle du jeu et de se présenter, justement, dans l'évolution de ce qui va se passer politiquement en Syrie, pour justement pousser pour des élections, pousser pour une nouvelle constitution et pouvoir avoir vraiment un rôle à jouer dans ce qui va se passer.
Oui, je crois qu'il ne faut pas partir forcément du principe que c'est mauvais d'avoir des relations compliquées et difficiles, voire conflictuelles avec la Russie d'un point de vue diplomatique. Au contraire.
Il faut avoir un rapport de force et bien montrer qu'on ne se laisse pas se
voir. Là, clairement, Emmanuel Macron cherche le contact. Quand Donald Trump cherche tendanciellement à sortir du jeu et que la Grande-Bretagne, qui a d'autres soucis, n'est pas pressée d'y entrer.
20h20 sur France Info, on fait un point complet sur l'info avant d'en venir à Notre-Dame-des-Landes avec Marc Potvin.
Peu importe les destructions de squats ces derniers jours à Notre-Dame-des-Landes, les soutiens des occupants sont décidés à reconstruire sur place. Des milliers d'entre eux se sont rassemblés aujourd'hui sur la ZAD. Dans la matinée, certains se sont opposés aux gendarmes. Au moins 3 manifestants ont été interpellés, 3 gendarmes ont été blessés. Après l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia il y a 6 mois à Malte, 45 de ses confrères ont poursuivi ses enquêtes sur la corruption et le blanchiment d'argent dans le pays. Ils font partie de 18 médias internationaux, dont Radio France. Ces enquêtes sont à retrouver notamment sur France Info et franceinfo.fr à partir de mardi. 700 motards ont mis pied à terre cet après-midi en plein périphérique parisien. Ils ont bloqué la circulation pour protester contre la future limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires, conséquence d'importants bouchons aux portes de Paris. PS, LR ou encore FN, ils vont pouvoir donner leur avis sur les frappes occidentales en Syrie au Parlement demain. Un débat sans vote sera organisé à partir de 17h à l'Assemblée et au Sénat. C'est la procédure quand une intervention de l'armée française à l'étranger est décidée. Et puis le PSG a l'occasion d'être sacré champion de France de football dès ce soir. Il lui suffit d'une victoire face à son dauphin Monaco. Début du match dans moins d'une demi-heure. Cet après-midi, Marseille s'est imposé 3-2 face à 3. Bordeaux a battu Montpellier 3-1.
France Info.
20h, 21h, les informés, Aurélien Accard.
Les informés ce soir, Maud Guillaumin, Arnaud Benedetti, Hervé Gaucho et François Ehrenwein. On en vient à l'autre opération quasi militaire, très commentée en tout cas cette semaine, l'expulsion partielle des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Officiellement, l'opération terminée et réussie. Ça, c'était le message vendredi. En réalité, manifestation monstre et de nouvelles échauffourées hier et encore ce matin. Et surtout de très nombreux soutiens aux zadistes qui sont venus dire aujourd'hui leur écœurement. C'est le cas par exemple de Thierry. Il est agriculteur en Savoie et il a décidé de venir ce week-end en soutien aux zadistes.
Moi, c'est par exemple, je suis monté depuis Massavoie, j'ai vu qu'ils donnaient des coups de pelleteuse dans des fermes, notamment la ferme des Sans Noms. Je dis là, c'est trop, quoi. C'est trop.
Alors, le gouvernement voulait rétablir l'ordre républicain, mais est-ce qu'il n'en a pas fait finalement un peu trop, Hervé Gauthier, cette semaine?
Ouais, je crois surtout qu'on découvre que le problème de la ZAD ne s'arrête pas. Il suffit pas de décider qu'on fera pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour résoudre ce problème, parce qu'il y a des gens qui sont implantés là et que, bah, oui, les zadistes n'étaient pas si décidés que ça à partir, qu'ils n'étaient pas juste opposés à l'aéroport, qu'entre-temps, au fil des années, ils ont bâti une espèce de projet communautaire notaires entre eux, etc. Maintenant, on se retrouve avec un imbroglio juridique parce qu'il y a des gens qui sont là de manière illégale, il y a des gens qui sont là de manière légale, il y a des gens qui sont plus ou moins des communautés anarchistes, mais il y a aussi des agriculteurs. Il y a toute une économie qui s'est développée sur ces 1650 hectares de cette emprise de ce que devait être l'aéroport et qui appartient à l'État, où il y a des exploitations avec des céréales, avec des moutons, avec des vaches, avec... Et donc, voilà, c'est pas si simple que ça maintenant de démonter tout ça simplement en faisant donner les CRS. Et puis... Là où le gouvernement a pris quand même un risque, ça a été dans cette bataille des images, nous on a vu en télévision, on a eu beaucoup de mal à accéder les premières heures à ce qui se passait sur place. On a eu des CRS qui se sont équipés de caméras de caméras et qui nous ont donné des images officielles comme à l'époque de la guerre du Golfe où on devait faire avec le matériel qui nous était. Enfin, c'était quand même vraiment très étrange. Quoi. Ça nous a fait quand même beaucoup réagir.
Et donc, d'où ma question sur cette opération quasiment militaire. Enfin, ça a été quand même médiatisé. Ces 2500 gendarmes qui
interviennent. Ça avait plutôt bien démarré quand Édouard Philippe a annoncé la fin du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais là, maintenant, il va falloir qu'il fasse attention à bien gérer l'affaire et à ce que ça ne tourne pas vraiment au vinaigre et à ses dépens.
C'est ça, parce que les zadistes, en effet, avaient, comme vous le disiez, une autosuffisance alimentaire et ils sont vraiment dans... C'est pas seulement un anti-système. Pour eux, c'est un autre système. Et donc, ils estiment vraiment que ce qu'ils ont mis en place a été cassé, vraiment détruit, sans respect et sans discussion. Alors, il est vrai que Édouard Philippe avait bien donné comme limite la trêve hivernale, qu'on a dépassé la trêve hivernale et que donc du coup les forces de l'ordre avaient dit que en effet elles s'imposeraient. Il est vrai que cette violence d'un seul coup, elle a quand même été critiquée par beaucoup de gens, hein, que ce soit par les Verts et même Nicolas Hulot a dû monter au créneau pour essayer de défendre un peu la situation en disant de calmer le jeu, parce que ce dont on a peur, c'est de voir quelque chose comme Rémi Fraisse, de voir de nouveau un mort, parce que les violences sont quand même très importantes. Et est-ce que ça réglera le problème? Eh bien ça, c'est la question, parce que on voit bien que les zadistes sont des gens très souples qui recréent des nouvelles communautés et ça peut en effet venir partout et se développer ailleurs qu'autour de Notre-Dame-des-Landes.
Après, il ne faut pas se tromper, mais la violence, elle est quand même des deux côtés. Hein. On l'a vu à Nantes hier.
Il y a eu bien sûr plein de magasins cassés.
De
c'est beaucoup d'extrêmes.
Est-ce qu'il fallait finalement aller aussi vite sur ce dossier? Comment on peut l'expliquer, François Lannevagne?
Certainement pas. Se développait sur Notre-Dame-des-Landes une forme de créativité, d'invention sociale, y compris sur le plan de l'architecture, reconnue par des professionnels. Alors, c'était pas forcément follement aux normes, mais c'est pas la question. Le monde de demain s'invente aussi dans des endroits comme les ZAD. Il n'y avait aucune urgence à envoyer les matraques et les coups de gourdin. On pouvait avoir une approche plus tranquille de l'exfiltration de ceux qui n'avaient plus rien à faire.
D'autant qu'il n'y a même plus le projet d'aéroport est abandonné.
Mais oui, mais en termes de communication, notre ami nous le dira beaucoup mieux.
Je pense que
le gouvernement avait envie de montrer ses muscles sur ce coup-là. Et c'est proprement pas très malin quand on sait ce qui se jouait là. Il n'y avait pas de menace grave.
Mais la question, c'est qu'en effet, le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, veut incarner l'autorité, veut incarner la décision, veut incarner l'action sur un dossier qui a traîné depuis des décennies et des décennies, où l'ensemble des gouvernements successifs n'ont fait preuve ni d'autorité, ni n'ont pris aucune décision. Donc, d'autant plus qu'il y a un petit souci, c'est que quand même Emmanuel Macron, durant la campagne présidentielle, s'était prononcé en faveur de l'aéroport. Donc, il fallait, en effet, renoncer par rapport à une promesse ou une semi-promesse de campagne campagne électorale, mais l'a contrebalancé en disant qu'on va régler le problème de la ZAD par des mesures d'autorité. Donc il y a un vrai problème de cohérence d'image. Et l'autre souci, en effet, c'est qu'on a beaucoup communiqué cette semaine. Il y a eu beaucoup d'images sur les déploiements des forces de l'ordre, justement, pour aller vite et évacuer la ZAD.
On va se terminer.
Aujourd'hui, on est face à une situation qui était un peu bloquée.
Vous aurez le mot de la fin sur ce sujet. On revient dans quelques instants. On marque une courte pause dans les informés de France Info. On parlera notamment de la grève à la SNCF et du très léger changement de ton du gouvernement. Mais d'abord, c'est l'info de 20h30 qui arrive. A tout de suite.
France Info Trafic avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets en ligne ou en agence. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et c'est compliqué sur la 13 ce soir, Laura Laven.
Oui, comptez 17 km de ralentissement après le péage de Mantes-la-Ville. Avant le péage, c'est à nouveau fluide. C'est compliqué aussi sur la 10, toujours vers Paris. Trafic ralenti de Massy à Vissous en raison d'un accident. Et puis, sachez également que c'est chargé autour du Stade de France à cause du match PSG-Monaco qui commence dans une demi-heure. En région, ça bouchonne de part et d'autre de l'autoroute A7 au nord de l'Axe pour entrer dans Lyon et au sud de l'Axe pour entrer dans Marseille.
Laura Laven en direct du PC Mobilité de Radio France. Merci beaucoup. La météo.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
Une semaine printanière en perspective avec déjà une certaine amélioration demain. Un soleil de plus en plus radieux les jours suivants, accompagné d'une remontée générale des températures vers une moyenne de 24 degrés mercredi au nord, 25 au sud. Des thermomètres généralement dans les bonnes valeurs ce lundi avec 17 à 20 degrés l'après-midi sur la plupart des régions. Un peu plus sur le bassin méditerranéen, un peu moins sur le Finistère, le Béarn et le Pays Basque avec par exemple 14 degrés à Brest et Biarritz, 13 à Tarbes. Les grisailles matinales vont évoluer favorablement vers un ciel d'éclaircies sur 90% du territoire, exception faite du piémont pyrénéen où l'ambiance sera maussade. On notera également un risque d'averse, surtout l'après-midi sur le relief de l'Est, un vent modéré de sud sur le Finistère, de sud-ouest sur la Corse, ainsi qu'un mistral et une tramontane à 60 km/h.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
Excellente soirée à l'écoute de France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info avec Emmanuel Langlois.
Débat sans vote demain au Parlement après l'opération militaire menée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne contre la Syrie cette semaine. Washington se dit prêt à dégainer de nouveau alors que selon Vladimir Poutine, d'autres frappes occidentales en Syrie mèneront le monde au chaos. Fin de citation. Le régime de Bachar el-Assad annonce lui la reprise totale de l'enclave de la Ghouta orientale alors qu'une équipe internationale d'experts débute ce dimanche son enquête sur le site de l'attaque présumée, l'attaque chimique en Syrie. Cette récente intervention ébranle la classe politique en France, au-delà des clivages. Avant donc ce débat, ce débat sans vote au Parlement demain, le Premier ministre a reçu ce matin à Matignon les présidents des deux assemblées, ainsi que les responsables de groupes et des commissions défense et affaires étrangères. Mais au Royaume-Uni aussi, Theresa May risque de passer un lundi difficile. Un débat là aussi aura lieu au Parlement sur la participation des Britanniques à l'intervention. Et l'opposition ne compte pas en rester là à Londres pour France Info, Marina Daras.
Lors de sa conférence de presse, Theresa May n'a cessé de répéter que les frappes avaient été limitées, ciblées et efficaces et qu'il s'agissait strictement d'une réponse à l'utilisation présumée d'armes chimiques à Douma et non de la volonté de renverser le régime syrien. Mais cela n'a pas suffi à convaincre l'opposition. La décision arbitraire de participer à cette intervention sans demander l'aval du Parlement fait beaucoup de bruit. Les travaillistes, les libéraux démocrates et le parti indépendantiste écossais accusent la première ministre d'opportunisme politique en suivant les Américains et en abandonnant la voie de la diplomatie. Lors de la reprise des sessions parlementaires lundi, elle devra donc faire face aux députés qui ne seront pas tous de son côté. Le vote au Parlement n'est pas obligatoire, mais il se pourrait qu'elle y soumette malgré tout une motion pour lancer le débat au cas où d'autres interventions militaires ne soient nécessaires.
Marina Daras, 43 personnes toujours en garde à vue au lendemain de la manifestation de convergence des luttes organisée hier à Montpellier. Une cinquantaine au total avait été arrêtée après des échanges violents avec la police. Avec son frère Paolo, il avait signé certains des plus grands films du cinéma italien. Le cinéaste Vittorio Taviani est mort à Rome, il avait 88 ans. Le metteur en scène était malade depuis longtemps. Il avait réalisé avec son frère une quinzaine de longs métrages, dont le plus célèbre Padre Padrone avait reçu la Palme d'Or à Cannes. C'était en 1977. Le rugby et le top 14 et le gros coup de Castres à La Rochelle qui s'impose 26-18. Large victoire du Stade Toulousain sur sa pelouse, 42-27 face au Racing 92. Voici les informés, deuxième partie.
Les informés, Aurélien Car.
Les informés de France Info ce soir avec Maud Guillaumin, journaliste et documentariste, auteur notamment d'un documentaire sur les Kennedy et les droits civiques. C'est en ce moment sur la chaîne Toute l'Histoire. On est aussi avec Arnaud Benedetti, professeur en histoire de la communication à la Sorbonne et auteur du livre Le coup de com' permanent. On est également avec Hervé Gocho, rédacteur en chef au service économie et sociale de France Télévisions, et François Ernenwein, rédacteur en chef du journal La Croix. On va parler maintenant de cette grève perlée à la SNCF que le monde nous envie. Troisième semaine déjà de mobilisation contre la réforme du rail. La grève revient dès mardi soir pour deux jours. Une grève qu'une majorité de Français juge toujours injustifiée. 54% selon le dernier sondage IFOP pour le JDD ce matin. Mais une majorité qui se réduit assez fortement quand même. Ils étaient 58% il y a un mois. 4 points de perdu donc pour le gouvernement en quelque sorte, et 4 points de gagné pour les cheminots qui sont soutenus désormais par 46% des Français. Le gouvernement va-t-il devoir lâcher du lest, Hervé Gocho?
Ouais, de toute façon, il est quand même engagé, même s'il l'a pas dit totalement, il l'a écrit en tout cas, dans une logique de concertation, de négociation avec les syndicats, une espèce de négociation
concertation
permanente.
Qui a quand même été très très critiquée par les syndicats, qui disaient en gros, on vient nous expliquer ce qu'on a envie
de
dire.
Oui, mais Elisabeth Borne l'a écrit dans un courrier il y a quelques jours, elle a parlé de négociation. Et c'est quand même à ça qu'on assiste. Mmh. La CFDT, vous le disiez tout à l'heure, a fait passer un certain nombre d'amendements qui à l'Assemblée nationale qui vont être votés en vote solennel mardi, qui font avancer les choses, de l'avis même de Laurent Berger qui l'a dit il y a trois jours, qui a dit qu'il y avait des avancées. Voilà. Donc oui, évidemment, il y a de la négociation. Est-ce que c'est vraiment lâcher du lest quand on fait de la négociation? Oui, forcément, on lâche du lest sur certains points, pas sur d'autres.
Moi,
grosso modo, la réforme de la SNCF reste entière telle qu'elle est voulue par le gouvernement. Ce qu'on va voir, c'est comment va évoluer le front syndical par rapport à ça, où là, on voit que, au fur et à mesure qu'on avance dans la négociation, il y a une fracture qui semble naître entre les syndicats les plus durs CGT Sud, les syndicats les plus réformateurs CFDT et UNSA.
Moi, je pense que c'est un peu ce qu'avait calculé le gouvernement, hein, cette idée de, au départ, être quand même très droit dans ses bottes, on avance et puis on négociera petit à petit, voilà, et vous suivrez, c'est ce que justement les syndicats reprochaient. Et puis là, petit à petit, on lâche un petit peu du lest pour créer cette division au sein du mouvement syndical, pour que justement chacun trouve ses limites et suive ou pas le gouvernement. La grève perlée, on voyait, le gouvernement voulait découvrir aussi ce que ça allait donner sur le terrain, puisque c'était quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il fallait petit à petit avancer ses pions. Je pense vraiment que c'est ce qui a été fait.
C'est évidemment pas gratuit si c'est un amendement de la CFDT qui est retenu et pas un amendement de la CGT. On sait qu'il y en a eu aussi, François Nadal.
Pardon, mais la CGT, elle dit non à tout. Donc, comme ça, ils n'ont rien déposé comme amendement parce que...
Mais ils ont fait du lobbying, en tout cas.
Oui, ils refusent la réforme en entier. Hein.
Voilà, on rejette toute la réforme, donc il n'y a rien à discuter.
La logique de la discussion, c'est quand même de discuter avec ceux qui ont envie de discuter. Et c'est difficile de discuter avec ceux qui refusent la discussion. Donc là, le cadre est planté. Et je pense que la détermination du gouvernement sera pleine et entière. Il lâchera ce qu'on peut qualifier de miettes, enfin, pas grand-chose. Et au fond, parce que c'est au cœur de sa logique, cette réforme est indispensable pour poursuivre la démonstration d'Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle il a été élu. Il faut réformer la France, transformer et briser les blocages. Et là, je pense que il ne le fera pas, aussi parce que ça participe de sa stratégie de président. Il est convaincu que la France retrouvera une crédibilité sur la scène internationale si elle est capable de conduire des réformes qui la mettent un peu dans les clous de ses partenaires européens.
Arnaud Benedetti, sur la stratégie qu'a suivi le gouvernement et ce léger virage qui s'opère, c'est un vrai virage
ou... Non, mais je pense qu'il concède sur du symbolique pour ne rien concéder sur le fond. C'est en tout cas ce qui ressort de l'entretien qu'il a donné il y a trois jours au journal de Jean-Pierre Pernaut. C'est-à-dire qu'il a maudit la forme, il a été un peu plus humain dans sa façon de présenter la réforme, et il a cajolé les cheminots en évitant de les stigmatiser comme ça avait été le cas au début lors de l'annonce de la réforme. En effet, de ce point de vue-là, sur le plan symbolique, il a fait manifestement l'effort de communication qu'il fallait. Ensuite, sur le fond, s'il cède, le quinquennat est d'ores et déjà plié. Donc il est clair qu'il ne peut pas céder sur cette réforme.
Moi, je crois qu'effectivement, la réforme de la SNCF, de toute façon, elle se fera, et elle se fera telle qu'elle a été énoncée, ça me paraît clair, avec quelques amendements.
Il l'a redit très clairement, d'ailleurs, jeudi à 13h.
Mais en revanche, en ce qui concerne la CFDT et la CGT, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un peu le remake de la loi El Khomri, où la CGT est allée vraiment jusqu'au bout dans sa logique d'opposition, et finalement ça lui a coûté quand même assez cher, notamment ils ont perdu des militants, ils ont perdu des voix dans les élections professionnelles privées, et la CFDT, elle a accompagner cette réforme, et finalement ça lui a plutôt réussi, puisque c'est comme ça que c'est devenu notamment le syndicat, enfin le premier syndicat du privé. Et alors après, en ce qui concerne la CFDT, on va voir comment, à quel moment ils jugeront bon d'accompagner le mouvement et de sortir de la grève, à eux aussi de faire leur bon choix. Faut pas oublier qu'il y a des élections professionnelles justement à la SNCF à l'automne.
Et c'est une réforme aussi très très importante pour Emmanuel Macron, parce que n'oublions pas que si jamais en effet il rate sur cette réforme, comment il peut envisager mener à bien la réforme des retraites l'année prochaine. Donc forcément ça doit être son tremplin au contraire. Donc il faut absolument qu'il la réussisse. C'est pour ça qu'il est obligé de montrer quand même les muscles et de montrer qu'il est très déterminé. C'est très important, sinon l'année prochaine c'est impossible.
En même temps la CGT reste quand même très déterminée.
Non mais la loyauté, quand on est sur ce débat, conduirait à dire quand même que la conception qu'il a du dialogue social est une conception régressive par rapport à l'histoire sociale française. Et ça peut à terme poser quand même un certain nombre de problèmes. Les réformes sont indispensables, mais pourquoi est-ce qu'on ne les conduit pas sur le mode du dialogue social plutôt que celui de cet embryon de concertation qui débouche parfois sur une toute petite négociation?
On va continuer à parler de la réforme du rail et de la bataille du rail dans un instant, mais d'abord à 20h40, toute l'actualité de ce dimanche soir avec Marc Potvin.
Un nouvel avertissement de Vladimir Poutine, il s'adresse aux Occidentaux. D'après le président russe, de nouvelles frappes en Syrie provoqueraient le chaos dans les relations internationales. Poutine et son homologue iranien estiment que ces frappes endommagent sérieusement les perspectives d'un règlement politique en Syrie. Des élus, des syndicalistes et des citoyens, plus de 300 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Barcelone. Ces manifestants ont réclamé la libération de 9 figures indépendantistes catalanes. Elles sont notamment accusées de rébellion. Parmi les slogans dans le cortège, liberté pour les prisonniers politiques. Si la mobilisation baisse chez les cheminots, c'est parce qu'on est dans une période de congé. Déclaration du secrétaire général de la CGT aujourd'hui après 3 épisodes de la grève à la SNCF. Philippe Martinez assure que les cheminots sont toujours aussi déterminés à lutter contre la réforme du rail. La thèse accidentelle reste privilégiée après la disparition de Léo. Hier, la dernière fois que le petit garçon a été vu, il jouait dans son jardin à Romilly-sur-Andelle, près de Rouen. Les recherches étaient concentrées autour d'une rivière en contrebas de sa maison. Elles sont désormais étendues à la Seine. Et puis à l'issue de la 24e journée du championnat de France de rugby, Montpellier reste leader. Toulouse est deuxième après sa victoire 42-27 face au Racing 92. Les Franciliens qui sont troisième. Un autre match a eu lieu aujourd'hui. Castres est allé gagner 26-18 à La Rochelle.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Car.
Les informés de France Info ce soir, Maude Guillaumin, journaliste et documentariste, Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne, à vos souhaits, Hervé Cochot, rédacteur en chef au service économie et sociale de France Télévisions, François Ernenwein, rédacteur en chef de La Croix, et on accueille Yannick Falt du service politique de France Info, car on suit d'un coin de l'œil l'interview qu'accorde ce soir à Mediapart Emmanuel Macron, et on va en parler dès que le président aura répondu aux toutes premières questions. D'abord, on reste sur la SNCF encore quelques instants. Cette grève perlée qui revient donc mardi. Je voulais qu'on revienne quand même sur l'opinion qui change un tout petit peu depuis le début quand même de cette réforme. Le gouvernement avait l'air d'espérer que ce soit plutôt l'inverse, mais finalement c'est le soutien aux grévistes qui progresse un tout petit peu dans l'opinion. Arnaud Benedetti.
Oui, c'est étonnant. Alors, il faut le moduler en fonction des sondages.
C'était par rapport à
parce que tous les sondages ne disent pas exactement la même chose, je crois. Mais bon, il faut se souvenir qu'en 95, quand Alain Juppé annonce la réforme des régimes spéciaux, il a plutôt une opinion qui est favorable et qui va se retourner. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer avec Emmanuel Macron, parce que je pense que contrairement justement à l'époque d'Alain Juppé, c'est qu'il bénéficie sur cet aspect-là, en tout cas de sa politique, d'un soutien plutôt majoritaire qui n'était pas aussi probant pour ses prédécesseurs. Mais en tout cas, ce qu'il faut, là où il faut vraiment qu'il fasse attention, c'est dans l'image qu'il donne de sa politique en général, c'est-à-dire qu'en effet, l'image qui est parfois celle d'Emmanuel Macron, c'est d'être plutôt le président d'une certaine France, et c'est ça qui peut, à un moment donné, venir contaminer sa réforme.
Oui, puis il y a un vrai travail de pédagogie à faire sur le statut de l'entreprise, où tout le monde n'a pas forcément compris pourquoi est-ce que le gouvernement veut absolument modifier ce statut.
C'est vrai qu'on a vraiment du mal à comprendre, et le gouvernement ne répond pas très clairement quand on lui demande. On sait que le problème principal, c'est la dette.
Il y a la question de la reprise de la dette.
Et on ne sait pas trop le lien entre les deux.
Il y a quand même beaucoup de dossiers très complexes dedans. La reprise de la dette, l'ouverture à la concurrence, dont on ne sait pas très bien. Enfin, les gens n'ont pas forcément compris comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce que ça va impliquer. Sur la dette, par exemple, pour l'instant, le président de la République lui-même a mouillé la chemise jeudi dernier en disant « Oui, effectivement, on va en reprendre une partie, mais il dit pas combien. » En Allemagne, en 94, ils ont repris 34 milliards d'euros de la Deutsche Bahn. Ils ont effectivement épongé la dette pour que l'entreprise puisse repartir. À la SNCF, on en est à plus de 50 milliards. C'est pas 46 milliards, en fait, on est à beaucoup plus que 50 milliards. Et on sait pas du tout comment est-ce que l'État français peut éventuellement reprendre cette dette dont il est quand même responsable. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais dont il est responsable quand même.
François Donnevine.
Non, mais il y a tous ces aspects techniques et c'est effectivement complexe. Mais si on regarde le paysage français, la présidentielle l'a montré, la victoire au second tour d'Emmanuel Macron en était l'illustration. La pédagogie de la réforme a gagné du terrain en France si on compare aux grèves de 95. Donc là, la transformation dans le pays est profonde. Mais après, je reviens à un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la nature du dialogue. Comment est-ce qu'on construit la réforme ? Les Français sont favorables à la réforme, mais pourquoi la réforme serait toujours punitive ? Pourquoi est-ce que la réforme, ça serait constamment des pertes de droits ? Et par le dialogue social, on peut arriver à des compromis utiles pour l'ensemble du pays. Si on a une vision de la réforme d'en haut, qui est celle d'Emmanuel Macron, parce qu'il est rentré dans la discussion en proposant de la concertation. La concertation, c'est pas la négociation. Il demandait aux partenaires sociaux d'approuver la feuille de route qu'il leur proposait. Et c'est normal qu'il y ait aussi des braquages.
Il y a une autre idée aussi, c'est, je pense, l'idée même du service public, qui reste quand même une notion que les Français défendent. Et là, je pense que la pédagogie autour du service public a pas été très très bien menée par Emmanuel Macron, parce que cette idée de concurrence, en fait, elle fait peur. C'est vrai qu'on a l'exemple de l'Angleterre, notamment, et on donne pas, par exemple, les exemples allemands ou italiens, où en réalité, eh bien, ce sont c'est la Deutsche Bank qui est quand même resté majoritairement à la tête des différents réseaux. Donc, on peut le montrer. Cet exemple de dette, alors là, c'est un petit peu compliqué, mais cet exemple de dette, pourquoi, en fait, il est obligé de la récupérer, Emmanuel Macron ? C'est parce que, de toute manière, personne viendra s'installer en France s'il faut, en plus, absorber cette dette énorme. Donc, de toute manière, la concurrence, ça ne peut pas se mettre en place.
C'est impossible de créer une société anonyme avec autant de dettes.
Évidemment, évidemment.
Et ça la créer en faillite, quasiment.
Exactement. Donc, c'est pas possible de le... C'est pas possible de présenter un schéma comme ça. Mais cette idée de service public, je pense vraiment que c'est quelque chose que les Français veulent défendre. Et ça, je pense que ça n'a pas été très bien expliqué par Emmanuel Macron, montrer que la réforme défend encore le service public.
Et on sent que c'est un coin que les opposants essayent d'enfoncer, hein, Hervé Gauthier.
Oui, c'est sûr que je pense que c'est ce que les sondages traduisent. C'est que les gens sont pris entre eux. D'un côté, ils sentent bien qu'il y a quand même quelque chose à faire et qu'on ne peut pas rester en l'état. peut-être aussi une certaine méfiance, voire une certaine défiance à l'égard de certains syndicats cheminots parce qu'ils gardent des très mauvais souvenirs de certaines grèves, y compris de celles qui sont en cours et qui les pénalisent beaucoup. Et puis de l'autre, effectivement, parfois, ils ont du mal à comprendre ce que le gouvernement est en train d'essayer de leur vendre, entre guillemets.
Donc c'est un problème d'explication seulement ?
C'est un problème d'explication, c'est un problème de posture, c'est un problème de comportement, mais ce qui est sûr, c'est un problème de culture.
La vérité
pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas dans la culture de la négociation. C'est quelqu'un qui veut diriger, c'est quelqu'un qui veut gouverner, mais au sens de la direction. Il a un cap, il est convaincu de la nécessité de ses réformes, et la négociation, ça fait pas partie de son ADN politique.
C'est les limites
de son action.
Ce sont les limites de la vision technocratique de la gouvernance. Voilà, on n'applique pas les grilles de lecture qui valent pour l'entreprise à la direction des grands chantiers de l'État en France. C'est une erreur.
C'est vrai que sur la méthode, moi j'ai entendu quand même il y a quelque temps en off, je dirais pas qui, un député de La République En Marche dire oui quand même toutes ces histoires de navettes parlementaires, qu'est-ce que ça nous fait perdre comme temps. Il a fallu quand même qu'on lui dise mais enfin oui, enfin en même temps c'est ce qui s'appelle l'exercice de la démocratie. Et il y a une espèce de recherche d'efficacité qui peut se faire un petit peu aux dépens de tout, y compris aux dépens du respect de la négociation et des partenariats.
Pour finir, en même temps,
c'est quand même une méthode qui marche quand même plutôt pas mal. Oui. On l'a vu sur la loi travail, on l'a vu sur la réforme de l'assurance chômage, sur celle de l'apprentissage.
C'est les premiers succès, ça se logique. Au début, ça fascine, ça intéresse, mais après, montent les questions. On n'a pas dans l'histoire de France et d'ailleurs des projets de gouvernement technocratique qui aient réussi.
Non, mais Emmanuel Macron, il a une vision de la politique qui est une vision managériale. C'est-à-dire qu'il gère le pays comme il gérerait une entreprise. La difficulté, c'est que la réalité politique, ce n'est pas une société du CAC 40, c'est de la négociation, c'est de la discussion, c'est en effet la démocratie parlementaire, c'est du compromis. Et donc, je suis pas sûr qu'encore une fois, ces éléments-là qui sont essentiels à l'expression d'une culture politique, à l'expression d'une culture démocratique, Emmanuel Macron les ait véritablement intégrés et se soit acculturé à eux.
C'est ce qui est le plus reproché depuis le début du quinquennat.
Mais si on fait un premier bilan, l'efficacité à court terme, ça marche. Enfin, y compris cette dynamique managériale. C'est dans le temps que cette gouvernance s'use.
En tout cas, pour l'image et pour l'image à l'international, en effet, ça marche. D'un seul coup, une France, une nouvelle France, dynamique, gérée différemment, qui se laisse plus entraîner dans des grèves à long terme et trop engluée dans des problèmes, justement, avec les syndicalistes. Sauf que, on le voit bien, là, Emmanuel Macron, ça n'a pas très bien marché. Ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Pernaut, on va y arriver, et c'est pour ça qu'il est obligé d'enchaîner sur une deuxième grande interview 4 jours plus tard. Donc ça prouve en effet que cette efficacité managériale, c'est comme des grands séminaires qui s'enchaîneraient les uns après les autres.
On appelle ça le retour du réel, c'est tout.
Et vous me permettez donc une transition parfaite, puisqu'on va effectivement s'arrêter dans un instant sur l'appétit nouveau d'Emmanuel Macron pour les interviews télévisées. Lui qui, il y a un an, avait une pensée trop complexe, selon son entourage, pour se prêter à cet exercice. Ce sera dans un instant, après l'info de cette soirée, l'info de ce dimanche soir à 20h50 avec Marc Potvin.
Le président de la République s'exprime pour la première fois après les frappes occidentales en Syrie. Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire, affirme Emmanuel Macron. Il ajoute que l'intervention était légitime et que la Russie est complice de l'emploi d'armes chimiques. Le président est interviewé par Mediapart. Les soutiens aux zadistes expulsés ne sont pas résignés. Ils comptent bien reconstruire des lieux de vie après les évacuations cette semaine. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies aujourd'hui sur la ZAD. Dans la matinée, de nouveaux affrontements ont éclaté entre des manifestants et des gendarmes. Au moins 3 personnes ont été interpellées sur la journée. 3 gendarmes ont été blessés. 45 journalistes ont pris la relève d'une de leurs consoeurs, Daphne Caruana Galizia, assassinée il y a 6 mois à Malte. Ils ont poursuivi ses enquêtes sur la corruption et le blanchiment d'argent dans ce pays. Radio France fait partie des 18 médias impliqués dans ce projet. Ces enquêtes sont à retrouver notamment sur l'antenne et le site internet de France Info à partir de mardi. Le périphérique parisien bloqué cet après-midi, conséquence d'une opération de 700 motards en colère. Ils protestent contre la future limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. Leur manifestation a provoqué d'importants bouchons aux portes de Paris. Et puis le cinéma italien perd un de ses grands noms, Vittorio Taviani. Le réalisateur est décédé à l'âge de 88 ans. Avec son frère Paolo, il a réalisé plus d'une vingtaine de films, dont Padre Padrone, Palme d'Or à Cannes en 77.
France Info.
20h, 21h, les informés, Aurélien Carr.
Les informés de France Info ce soir, Maud Guillaumin, François Hernenwein, Hervé Gotcho, Arnaud Benedetti et Yannick Fall du service politique de France Info. Emmanuel Macron qui fêtera bientôt le premier anniversaire de son accession à l'Élysée et qui semble avoir changé d'avis sur les interviews télévisées, ou plutôt de braquer. Il donne en effet ce soir sa deuxième interview en quatre jours, sa quatrième en tout depuis son élection. Ça vient de débuter et Emmanuel Macron a évidemment été interrogé dès le début de cet entretien sur la Syrie. Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire, a dit le président. Écoutez.
Nous avons en effet obtenu par nos services et les services de nos alliés des preuves que du chlore, des armes chimiques, avaient été utilisées. Nous avons ensuite obtenu la preuve que ces armes pouvaient être attribuées, l'utilisation du chlore, puisque c'est de cela dont il s'agissait, pouvait être attribuée au régime syrien. C'est ce qui nous a conduit, en lien avec les États-Unis et les Britanniques, à conduire cette intervention dans un cadre très strict et avoir le résultat escompté.
Emmanuel Macron, dans l'entretien qu'il accorde en ce moment à Mediapart depuis le Théâtre National de Chaillot à Paris, Yannick Falk, il a donc commencé cet entretien, le président, par évidemment l'actualité brûlante, si je peux dire, en Syrie.
Oui, le chef de l'État commence évidemment là où on l'attend. C'est sa première intervention en tant que chef des armées depuis les frappes en Syrie qui ont été menées par cette coalition, alors que Donald Trump et Theresa May, eux, avaient pris la parole. Donc première intervention du chef de l'État qui a attendu cette interview. On se souvient que François Hollande, au moment des différentes interventions militaires, également sur des théâtres extérieurs en Centrafrique, par exemple, ou au Mali, avait directement pris la parole. Donc première prise de parole d'Emmanuel Macron. Nous avons réussi sur le plan militaire, dit le chef de l'État. Il justifie également l'opération en disant qu'elle s'est faite dans un cadre très légitime, que cette décision a été prise par trois pays faisant partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'instant, Emmanuel Macron justifie la légitimité de cette opération militaire.
Emmanuel Macron qui a aussi dit que la Russie était complice de l'emploi d'armes chimiques en Syrie. Avant de s'arrêter sur le fond, Arnaud Benedetti, sur la forme, Yannick Falk l'a très bien souligné, Theresa May et Donald Trump sont intervenus à la télévision quelques minutes après le déclenchement des frappes, pas Emmanuel Macron. Il a choisi une autre forme de communication ce soir.
Oui, enfin, il est intervenu très rapidement puisque au moment des frappes, il y a eu un communiqué de presse officiel de l'Élysée qui a été publié et toute une série de tweets où le président de la République d'ailleurs s'est mis en scène aussi en tant que chef de guerre, si je puis dire, dans cette opération. Donc, il choisit un mode de communication qui s'inscrit tout simplement dans le plan de communication qui est le sien cette semaine. Donc, ça fait maintenant quelques jours qu'il a annoncé ses deux interventions télévisées. Donc, il saisit l'occasion, si je puis dire, de cette intervention télévisée au Palais de Chaillot pour faire le point sur la situation, ce qui me paraît à peu près logique sur le plan de la bonne communication.
Et alors, on se posait la question tout à l'heure, ces frappes en Syrie étaient-elles légitimes ? Pour le président, elles étaient même indispensables pour redonner de la crédibilité à la communauté internationale. Voilà ce qu'a dit il y a quelques minutes Emmanuel Macron. Hervé Gotcho.
Oui, ce qui est assez fort, c'est son intervention sur la complicité des Russes dans l'utilisation de l'arme chimique. Alors là, pour le coup, il enfonce vraiment un coin dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie, parce que jusque-là, il avait tenu un peu les Russes en dehors. Il leur reprochait le soutien à Bachar el-Assad, mais il n'était pas allé jusqu'à les accuser de complicité dans l'utilisation d'armes chimiques. Là, il va falloir quand même qu'il explique sa pensée, qu'il dise à quoi il pense réellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il dit que les Russes ont fourni des armes chimiques, qu'ils ont fourni des avions, des hélicoptères ? Enfin, c'est quand même, c'est un peu particulier comme
François, sur cet aspect précis.
À mon avis, je ne crois pas qu'il sortira une fiche technique pour montrer l'implication russe. L'objectif là consiste simplement à dire que les Russes sont assez mouillés dans la survie du régime Assad. Et que maintenant, il est temps pour les Russes, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, de commencer à se sortir de ce qui peut se transformer en bourbier pour eux, en acceptant de discuter avec les Occidentaux. Les Russes ont réussi leur opération au Proche-Orient. Ils ont étendu leur zone d'influence. Ils ont des négociations intéressantes de leur point de vue avec les Turcs. Mais en tous les cas, le pari russe, et je pense le pari de Vladimir Poutine, ce n'est certainement pas de passer 30 ans à s'occuper de la Syrie.
Je pense qu'il va aussi loin, justement, parce que là, ce qu'il veut, c'est que les négociations à l'ONU reprennent vraiment, et que les deux oppositions, en ce moment, hein, c'est simple, hein, la Russie estime que, n'ayant pas suivi l'ONU, les trois pays sont complètement illégitimes par rapport à cette frappe. Au contraire, les trois pays estiment que c'est parce que c'est la violation de 1993, de la convention de 1993 sur les armes chimiques. Donc, c'est deux avis complètement contraires. Donc là, en insistant sur ce point, évidemment, il appuie sur sa vision à lui, et en obligeant donc les Russes aussi à cette fois vraiment s'impliquer davantage au Conseil de l'ONU et d'arrêter les vétos systématiques. 12 vétos tout de même.
Emmanuel Macron qui vient de confirmer d'ailleurs qu'il irait bien à Saint-Pétersbourg au mois de mai. C'est déjà la fin des informés. Merci beaucoup à nos invités ce soir. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, auteur du livre Le coup de com' permanent, Maud Guillaumin, journaliste et documentariste, François Hanenwein, rédacteur en chef à La Croix, Hervé Gauthier de France Télévisions et Yannick Falt de France Info. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.